Vous écoutez On lit pour vous.
Une exposition sonore pour les 125 ans du Théâtre national. Un texte de Philippe Renaud, paru le 26 novembre 2025 dans Le Devoir. Mettre le pied au National, rue Sainte-Catherine-Est, affirme l'universitaire et spécialiste de l'histoire du théâtre québécois Jean-Marc Larue, c'est rentrer dans un théâtre du milieu du 19e siècle, même s'il a été construit en 1900, il y a donc 125 ans. Pour souligner l'anniversaire, le public est invité à visiter les lieux et l'exposition sonore qu'on y tient, ainsi que le site web racontant l'histoire de cet incubateur de la dramaturgie québécoise, successivement transformé en haut lieu du burlesque, en cinéma asiatique, en cinéma gay, puis en salle de spectacle. Pour l'inauguration de Mémoire du Théâtre national, se réunissait une petite centaine de gens, amateurs d'histoire, anciens du Conservatoire d'art dramatique de Montréal, qui a occupé les lieux entre 1968 et 1973, ou encore descendants de Julien Daou, acteur québécois ayant fait carrière à New York dans les années 1890 et qui, de retour à Montréal, a financé la construction et dirigé ce lieu exceptionnel, unique, selon le professeur Larue, qui vante aussi son côté chaleureux et ses propriétés acoustiques. Au balcon, le public trouvera trois stations racontant son histoire, narrées par l'humoriste Philippe-Audrey Larue-Saint-Jacques, fils du professeur. L'une d'elles est logée dans la petite salle de projection au fond du balcon où l'on apercevra deux gros projecteurs à bobines, le théâtre ayant survécu grâce au cinéma qu'on y a présenté. Mais surtout, le Théâtre national est né théâtre et est demeuré théâtre jusqu'à aujourd'hui, dit le professeur Larue, qui, comme sa collègue et commissaire de l'exposition, Ève-Catherine Champoux, insiste sur le rôle catalyseur qu'a eu le lieu pour le développement d'une dramaturgie québécoise. Une histoire d'identité. Alors que les théâtres montréalais reprenaient des œuvres françaises, vaudevilles ou classiques, Julien Daou disait que « nous avions notre propre identité. Nous ne sommes ni Français ni Américains. Nous sommes Canadiens-Français », résume Mme Champoux. « Nous sommes simplement différents. Et nous devrions nous exprimer comme tels. » Julien Daou a écrit ses propres pièces en utilisant la langue parlée québécoise de l'époque, ajoute la commissaire, qui voit en lui un véritable visionnaire. Ou un Michel Tremblay avant la lettre en joie, pour ainsi dire. Présent à l'inauguration de l'exposition, l'auteur des Belles-Sœurs a fait du National le décor de quelques-unes de ses chroniques du plateau Mont-Royal, précisément dans La Duchesse et le Roturier, 1982. L'écrivain campant son histoire dans le Théâtre national de la fin des années 1940, alors dirigé entre 1936 et 1953, par Rose Ouellette, dite la Poune, durant l'âge d'or du burlesque auquel on associera aussi le clan Grimaldi. Jean Grimaldi avait racheté le National au début des années 1950. Sa fille Francine, célèbre ex-journaliste culturelle, était présente lundi pour confier quelques souvenirs de ces murs entre lesquels résonnent encore les rires provoqués par Juliette Huot, Olivier Guimond et mandat parent. Racheté dans les années 1970 par une famille d'origine chinoise, on y présente notamment des films de kung-fu, puis des films érotiques dans les années 1980, jusqu'au milieu des années 1990. Depuis 2006, la compagnie, l'arrivée Cabot Champagne, en est locataire et gestionnaire, en plus de veiller à la destinée d'un autre théâtre historique, La Tulipe, sur le plateau Mont-Royal. La commissaire Champoux, doctorante et spécialiste de l'exposition des arts vivants, est rassurée qu'une exposition sur l'histoire du National puisse être présentée pour sauver de l'oubli l'histoire de la dramaturgie québécoise. on peine encore à conserver nos traces, nos archives du théâtre, parce que ceux qui créent et produisent notre théâtre ne valorisent pas cette mémoire, notamment parce que ce sont des artistes qui regardent en avant, imaginent la suite et regardent très peu le chemin parcouru. On a beaucoup ce rapport-là au Québec, de dévaluer l'importance de nos archives. C'était une exposition sonore pour les 125 ans du Théâtre national, un texte de Philippe Renaud, paru le 26 novembre 2025 dans Le Devoir.
Un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne. Santé IPE lance le tout premier programme de jour pour adultes en français de la province. Conçu pour les personnes âgées francophones et bilingues, ainsi que pour leurs proches aidants, ce service offre un milieu d'accueil et de soutien taillé aux besoins de tous. Le programme est offert au centre communautaire d'Abraham Village, ancien Club 50, situé au 8938 route 11 à Abraham Village. Les activités s'y déroulent du lundi au jeudi, de 8 à 16 heures. Pour Lisa Gotel, responsable des projets francophones à Santé IPE, l'ouverture de ce service est une étape importante. C'est un service qui est enfin offert en français pour les résidents du comté de Prince, de Stanley Bridge à Tignish, souligne-t-elle. Les personnes inscrites au programme de soins à domicile peuvent s'adresser à leur coordonnateur. Les autres peuvent faire une demande en ligne ou par téléphone pour enclencher le processus d'inscription. Notre objectif, dit-elle, est d'aider les gens à rester chez eux le plus longtemps possible. Ça aidera à alléger la charge des hôpitaux et soutenir les proches aidants. Une évaluation des besoins suit chaque demande afin d'adapter les services au profil de chacun. Par exemple, si une personne doit s'absenter pour faire l'épicerie et ne peut pas laisser son conjoint seul à la maison, elle peut le confier au centre. Grâce aux bénévoles de l'Association des francophones de l'âge d'or de l'île du Prince-Édouard, un transport peut aussi être organisé si nécessaire, ajoute Madame Gottel. Les personnes vivant seules ou à risque d'isolement sont aussi invitées à se joindre aux activités. Le programme offre un milieu accueillant et stimulant où les échanges sont toujours enrichissants. On y propose des activités comme de l'artisanat, des exercices légers et de la stimulation cognitive. Chaque visite inclut une collation et un repas chaud offerts sans frais aux participants. Nos préposés sont formés pour offrir un appui attentif et respectueux, précise Mme Gottel. Ce programme améliore la qualité de vie des participants et offre aux proches aidants le répit dont ils ont besoin. Il répond surtout à un besoin exprimé depuis longtemps, avoir accès à des services de santé dans sa langue. Le programme s'adresse aux personnes francophones ou bilingues âgées de 65 ans et plus. Les demandes se font en contactant soit le bureau du programme de soins à domicile du comté de Prince au 902-888-8444 40 ou en remplissant un formulaire d'inscription sur le site de Santé IPE. Pour Lisa Gotel, ce projet répond à une demande. Offrir des soins qui respectent les besoins des habitants francophones et bilingues de l'île. C'est une façon concrète d'aider nos aînés à vivre mieux, près de chez eux et en français. C'était un nouveau service en français pour les aînés et leurs proches aidants. Un texte d'Éric Bergeron, publié le 17 novembre 2025 dans La Voix acadienne.
Procès d'un ex-anesthésiste français. Un crime tellement énorme, selon un avocat des victimes. Un texte d'Angela Schnebele de l'agence France Presse paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir. Son crime était tellement énorme. Les avocats des 30 personnes que l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonné au bloc opératoire et de leurs proches ont plaidé à son procès à Besançon, dans l'est de la France, pour mettre des mots sur la douleur des victimes. Sandra, Damien, Jean-Claude, Kevin, le crime est tellement énorme que l'inventaire à la Prévert est difficile à tenir, a souligné Frédéric Bernat, qui a ouvert le bal des plaidoiries des 27 avocats représentant les 193 parties civiles constituées. La justice française soupçonne cet ancien médecin anesthésiste réanimateur de 53 ans de 30 empoisonnements de patients âgés de 4 à 89 ans, dont 12 mortels, lors d'opérations entre 2008 et 2017 effectuées dans deux cliniques privées. L'un des plus grands criminels de l'histoire judiciaire française, c'était lui, Frédéric Péchier, a soutenu l'avocat qui défend à lui seul les intérêts d'une grande partie des victimes présumées et de leurs proches. Maître Bernat a dépeint un homme qui déraille, qui déteste sa vie et qui déteste son travail de pousse-seringue à la clinique, loin du fake instagrammable de la mélodie du bonheur décrite à la barre par sa famille. Dans cette ligne droite du procès ouvert le 8 septembre 2025, cette séquence consacrée aux parties civiles doit durer 3 jours, après quoi le ministère public prendra la parole pour ses réquisitions, avant la plaidoirie de l'avocat de la Défense, Randall Schwerdorfer, lundi 15 décembre 2025. Au cours des débats, l'accusé a admis qu'un empoisonneur avait bien sévi à la clinique Saint-Vincent de Besançon, mais pas à la polyclinique de Franche-Comté, selon lui. Cependant, il a contesté fermement être ce criminel. L'accusation lui reproche d'avoir, dans la plupart des cas, pollué des poches de perfusion avec du potassium, des anesthésiques locaux, de l'adrénaline ou encore de l'héparine pour provoquer l'arrêt cardiaque de patients pris en charge par d'autres anesthésistes et ainsi nuire à des collègues avec qui il était en conflit. Crime presque parfait. À chaque fois qu'il s'engueule avec un collègue, boum, le patient de celui-ci est victime d'un arrêt cardiaque inexpliqué, a souligné Maître Bernat. Ces pauvres patients qui sont vos victimes sont devenus les instruments de vengeance de vos petits problèmes, s'est-il indigné en s'adressant à l'accusé. Dans cette affaire inédite dans les annales judiciaires françaises, les parties civiles ont la conviction que tout nous conduit à pécher dans ce dossier, a-t-il asséné. Coupable, il l'est forcément, selon Maître Bernat, qui a fustigé le machiavélisme du crime parfait commis par un anesthésiste qui pouvait tuer au vu et au su de tous sans que ça n'interpelle personne. L'avocat a rendu hommage à la force et la résilience de deux de ses clients, Sandra Simard, dont l'empoisonnement en janvier 2017 a marqué le début de l'enquête, et Amandine Lélène, dont le père décédé en 2008 a été la première victime retenue dans cette affaire. Les deux femmes, a-t-il loué, se sont battus aussi pour toutes les autres en créant l'association des victimes de ce dossier, Lava Polvi. Le conseil a regretté que Frédéric Péchier ait renoncé au repentir, à l'humanité et à donner des réponses à ses victimes. Les jurés, a-t-il plaidé, devront emporter lors du délibéré les torrents de larmes, les colères légitimes et les douleurs indicibles des victimes frappées au hasard. Au nom de l'Ordre des médecins, partie civile, son confrère, Laurent Mort de Froid, a souligné l'horreur et l'effroi ayant saisi les soignants lorsqu'ils ont réalisé que l'un des leurs avait trahi le serment d'Hippocrate. « Le mépris et le déshonneur vont aujourd'hui s'abattre sur le docteur Péchier », a-t-il ajouté. Pour Frédéric Douché, conseil de la clinique Saint-Vincent où ont eu lieu la plupart des cas, il était impossible de déceler plus tôt l'origine malveillante des faits. Il n'y a pas de système infaillible de sécurité. On ne peut pas bunkériser un bloc opératoire, a-t-il souligné. Frédéric Péchier, qui comparaît libre et clame son innocence, encourt la réclusion à perpétuité. Le verdict était attendu le 19 décembre 2025. C'était « Procès d'un ex-anesthésiste français, un crime tellement énorme, selon un avocat des victimes ». Un texte d'Angela Schneibele de l'agence France Presse, paru le 8 décembre 2025 dans Le Devoir.
Bonjour la police, la filière Allopolis, les vedettes du crime au Québec. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 11 novembre 2025 dans la presse. Allopolis a fermé ses portes discrètement en 2004, après un demi-siècle d'existence. À l'époque, cette disparition n'a pas ému grand monde. Quoi qu'on en dise, ce journal fut pourtant une véritable institution du journalisme québécois. Peu de gens se sont intéressés depuis aux archives de cet hebdomadaire consacré au crime, lesquelles avaient été entreposées dans un hangar sur la rive sud. Peu de gens, sauf la recherchiste audiovisuelle Karine Perron, qui les consultait régulièrement pour des raisons professionnelles. C'est pourquoi les dépositaires du fonds, mal outillés pour rentabiliser ce trésor, lui ont proposé d'en faire l'acquisition en 2019, pour une somme que la principale intéressée souhaite garder confidentielle. Le jour avant d'aller les chercher, je me disais « Qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Mais je ne regrette pas, j'ai fait une bonne affaire. Lance cette fille d'un ancien policier qui admet avoir toujours eu un intérêt pour le monde interlope. Karine Perron s'est donc retrouvée avec des dizaines de classeurs remplis de journaux, de photos et de négatifs, témoignant de l'impressionnante activité d'Allopolis sur plus de 50 ans. Si l'on calcule, cet hebdomadaire aura ainsi publié quelque 2650 numéros entre 1953 et 2004, voire plus si l'on ajoute les éditions locales et les numéros spéciaux. Déterminée à faire fructifier cette mine d'or, la recherchiste a proposé un partenariat à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Banque. Sans succès. C'est alors que les éditions de l'Homme lui ont suggéré d'exploiter le tout sous forme de bouquin. Ce qui est désormais chose faite avec la sortie de la filière Allopolis, les vedettes du crime au Québec, rédigée avec deux autres passionnés d'enquête criminelle, l'ancienne détective et animatrice à Canal D, Annie Richard, et son collaborateur, Jean-Philippe Rousseau. Le danger par procuration. En plus de 200 pages de textes et de photos, les vedettes du crime au Québec ressuscitent les plus grands gangsters de notre histoire depuis les années 1950. Au total, une douzaine de portraits qui vont du français Jacques Mesrine au Wells Maurice Mom Boucher, en passant par Richard Blass, dit Le Chat, Monica Lamitraille, Proietti, Lucien Rivard ou Victor Lévesque, alias Pretty Boy. Ces criminels donnaient dans le braquage de banques, le trafic de drogue ou la protection dans les bars. Ils ont tué de sang-froid, fait de la prison, se sont évadés, certains à plusieurs reprises. Chacun avait son truc, mais tous ont fasciné le grand public, de leur vivant comme après leur mort. Pourquoi ont-ils marqué l'imaginaire? Demande Karine Perron. Parce que ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils étaient prêts à défier n'importe quoi. Ils se permettaient des choses que les gens normaux, sains d'esprit, ne se seraient jamais permises. Donc, je pense qu'à travers eux, les gens pouvaient vivre par procuration quelque chose de fou. Leur personnalité flamboyante explique aussi qu'ils soient restés dans les mémoires. Ils aimaient le glamour, les Kodak, l'attention médiatique. Or, Allopolis répondait parfaitement à leurs besoins de notoriété. En couvrant systématiquement leurs méfaits, l'hebdo a contribué à faire d'eux de véritables vedettes du crime, souriantes en apparence, mais brutales dans les faits. Mesrine était plus narcissique, plus mégalo, illustre Annie Richard. Richard Blass voulait passer à l'histoire pour son niveau de violence inouïe, mais il voulait que les gens l'applaudissent. Le dernier à avoir été comme ça, c'est Mom Boucher. C'est vraiment le dernier qui a été aussi violent, mais en même temps, flamboyant. Madame Richard rappelle au passage que Richard Blass et Mom Boucher allaient jusqu'à envoyer des photos d'eux au bureau d'Allopolis, question d'assurer leur propre suivi publicitaire. Très lu, mais mal vu. Dans les bonnes années, Allopolis pouvait se vendre jusqu'à 150 000 exemplaires par semaine, affirme Karine Perron. Belle revanche pour l'hebdo trash qui avait été conspué par l'Église lors de sa création en 1953. Le clergé n'était pas d'accord parce que ce n'était pas possible que ces ouailles tuent du monde, résume Mme Perron. Mais selon elle, cette publicité négative a aussi contribué au succès du journal. Plus il y avait de la controverse, plus on voulait lire. Victime des réseaux sociaux et d'un accès de plus en plus compliqué à l'information policière, Allopolis a finalement tiré sa révérence en 2004. Personne n'est allé à son enterrement. Mais avec du recul, Karine Perron croit que la revue a été injustement méprisée et sous-estimée. Malgré sa réputation de feuille de chou attribuable à sa nature sensationnaliste, Allopolis misait sur un vrai travail de terrain. Ses journalistes, dont le fameux Claude Poirier, qui signe la préface, se rendaient systématiquement sur les scènes de crime et arrivaient souvent en même temps que les policiers. Ils obtenaient des entrevues exclusives auprès de bandits notoires, trouvaient des scoops, des faits divers peut-être, mais couverts avec assiduité et un sens morbide du détail. Ce que confirme d'ailleurs Bernard Tétrault, son ancien rédacteur en chef. C'est pour sa rigueur qu'Allopolis a été, pendant 51 ans, la bible judiciaire des policiers, des juges, des avocats, des lecteurs et, oui, de bon nombre de criminels, écrit-il en intro du livre. À noter, Les vedettes du crime au Québec est le premier tome d'une série de 5 prévue par Karine Perron et son équipe. La recherchiste devenue archiviste prévoit un deuxième volume portant sur les grandes tragédies du Québec, accident de Québécois, ordre du Temple solaire, puis les suivants sur les organisations criminelles. Frères Dubois, mafia montréalaise, l'appareil judiciaire, avocat vedette, département médico-légal, police, et enfin, les faits divers les plus insolites. Pas de doute, les archives d'Allopolis ont encore beaucoup à offrir. C'était Rebonjour la police. La filière Allopolis, les vedettes du crime au Québec. Un texte de Jean-Christophe Laurence, paru le 11 novembre 2025 dans la presse.
La voie vers la richesse. Un texte de Gwendoline Le Beaumain, publié le 4 décembre 2025 dans l'Aurore boréale. On a parfois l'impression que certaines personnes maîtrisent un savoir-faire depuis toujours, et cela peut nous déconcerter devant la facilité avec laquelle elles s'exécutent. On en deviendrait presque envieux, envieuse. Puis on se dit « Pourquoi pas moi ?» Après tout, si l'autre y arrive, je peux bien y parvenir aussi. Pourtant, dans nos sociétés modernes, il est souvent plus simple de faire appel à un expert, une experte. Un simple coup de téléphone et quelqu'un vient régler notre problème. Porté par l'impatience et la culture du tout, tout de suite, l'idée de consacrer de longues heures à apprendre peut nous décourager rapidement. Aujourd'hui, nous avons parfois moins de temps, mais davantage de moyens. Alors, on confie à l'autre la réparation de notre voiture, de notre évier qui fuit ou la gestion de nos finances. Et certaines personnes l'ont bien compris. Elles profitent des lacunes ou du manque de connaissances des autres pour en faire leur métier et offrir leurs services. Ils et elles ont perçu un filon, identifier une demande dans la société et, parfois, créer leur propre entreprise pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin. On réalise parfois que ce n'est finalement pas si sorcier. Il suffirait de se retrousser les manches et d'oser se lancer pour acquérir ce savoir-faire. Mais c'est toujours plus facile à dire une fois que l'on possède les connaissances et que l'on a compris le fonctionnement. Comment y parvenir? La fin d'année approche à grands pas et il sera bientôt temps d'énoncer nos belles résolutions pour la nouvelle année. Quelle nouvelle expertise allons-nous choisir pour nous lancer du bon pied? En fait, la question à se poser est « par quoi commencer ?» Souvent, la tâche nous semble tellement immense que notre cerveau décroche. C'est trop vaste, trop flou, et notre cerveau réagit en générant une forme de résistance. La solution? Y aller par étapes. Découper en quelque sorte cette tâche qui nous paraît titanesque. On veut courir un marathon? Eh bien, on augmente son entraînement petit à petit. Il est difficile de rivaliser avec une ou un athlète ou une ou un artiste qui pratique une discipline depuis une décennie, parfois davantage. Son niveau actuel est le résultat d'un long travail. Et plutôt que de se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, par exemple, le pire, ou même à son entourage, il vaut mieux se rappeler que la seule personne que l'on cherche à dépasser, c'est soi-même. Et pour y arriver, ça prend de la patience, de l'endurance et de la détermination. On peut aussi adopter la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, acceptable, réaliste et temporellement définie, pour fixer des objectifs de manière claire et efficace. Car on ne devient pas expert-experte dans le domaine en un claquement de doigts. On peut aussi demander de l'aide et même faire appel à ces fameux ou ces fameuses professionnels qui maîtrisent déjà la discipline. Choisir une seule discipline dans laquelle on souhaite progresser plutôt que d'en commencer plusieurs à la fois afin d'éviter de se créer du stress inutile. Qu'elle soit intellectuelle ou manuelle, cette richesse est accessible à soi-même et grâce aux autres. Dans son entourage ou dans son proche environnement, il y aura toujours quelqu'un, un ou une amie, un ou une mentor, une association, prête et ravie de partager leurs connaissances. Et puis, c'est aussi réaliser que nous avons, nous-mêmes, un savoir à partager que nous pouvons transmettre à notre tour. Bref, il y aura toujours une personne pour vous tendre la main. Faut-il encore le faire savoir? C'était La voie vers la richesse, un texte de Gwendoline Le Beaumain, publié le 4 décembre 2025 dans l'Aurore boréale.